voudrais vous conduire dans un moment de lecture de la parole de Dieu. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ces paroles sont celles de l'apôtre Paul, écrites aux frères de l'église de Corinthe. Elles sont même les dernières exhortations données à cette église avant qu'il prenne congé d'eux dans sa lettre. Et on trouve dans ces paroles des thématiques qui reviennent souvent dans les lettres de Paul. Être dans la joie, travailler à son perfectionnement, être d'accord entre nous ou se consoler les uns les autres, vivre dans la paix. Alors, elles ne sont pas toujours ensemble dans les différentes lettres, mais elles reviennent régulièrement. Et ces exhortations renferment ce qu'on peut appeler, parfois de manière péjorative, des recommandations. Mais elles sont à la fois pour soi, personnellement, et aussi pour d'autres, et plus particulièrement pour nos frères et sœurs dans la foi, c'est-à-dire aussi pour l'Église. Et en tout cas, ces exhortations sont importantes. Elles ne sont pas à prendre à la légère. Et elle nous encourage, en tout cas, à une chose primordiale, à demeurer ferme dans le Seigneur et à vivre toujours un peu plus en communion avec lui. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles et nous allons lire un passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, cette fois-ci, au chapitre 4. Et nous lirons du verset 1 à 9. Philippiens 4. Versets 1 à 9. Paul dit « Mes chers frères, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie et ma couronne de victoire. Eh bien, mes amis, voilà comment vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Évodie et Saint-Tiche, je vous en prie, je vous en supplie, vivez en bon accord dans la communion avec le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs, dont les noms se trouvent dans le livre de vie. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Paul adresse cette lettre à des chrétiens macédoniens, plus précisément aux frères de l'église de Philippe. Alors Philippe, c'est cette ville de Macédoine à l'époque qui se trouvait, on pourrait dire aujourd'hui, au nord de la Grèce. Lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul va être appelé à traverser cette région de Macédoine. Et Paul prêchera pour la première fois l'évangile dans ce qu'on appelle aujourd'hui les frontières de l'Europe. On entend souvent parler de la Grèce aujourd'hui. Et dans cette ville de Macédoine, plusieurs acceptent l'évangile de Jésus-Christ. Alors bien plus tard, Paul écrit à cette église qu'il a fondée. Et plusieurs raisons conduisent Paul à écrire cette lettre aux Philippiens. D'abord, Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre, vraisemblablement à Rome, où il vit en captivité. Et donc les paroles d'exhortation qu'on vient de lire, gardez-les bien à l'esprit, elles n'ont que plus de force. C'est l'apôtre Paul qui est en prison qui écrit ces exhortations aux frères. Il leur envoie Épaphrodite, que l'Église avait détaché auprès de lui, à son service. Mais Épaphrodite tombe malade et Paul décide alors de le renvoyer dans l'église de Philippe. Il lui confie alors sa lettre, dans laquelle il exprime sa gratitude pour son aide. Mais cette lettre, c'est aussi l'occasion pour Paul d'encourager les frères de l'Église à tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ. Et Paul profite de cette lettre aussi pour faire des recommandations, mais aussi pour mettre en garde l'Église contre ceux qui peuvent la menacer. Peut-être après que Épaphrodite, en venant auprès de lui, lui ait donné quelques nouvelles. En tout cas, cette lettre, vous voyez, c'est l'occasion pour Paul de donner des nouvelles, de faire des remerciements pour l'aide d'Épaphrodite, d'apporter aussi un enseignement sur l'importance de Christ comme le centre de l'espérance qu'ils ont en eux, et aussi des exhortations à tenir fermement attachés au Seigneur. Et notre passage se situe dans cette quatrième section, à la fin du chapitre 4, dans les exhortations pour les frères de l'Église. J'ai volontairement commencé le chapitre 4 par le premier verset, qui est lui, pour sa part, rattaché au chapitre 3. Parce que Paul, ici, dans ce premier verset, fait une transition. Il dit, au verset 1, « C'est pourquoi demeurez ainsi fermement attachés au Seigneur. » Paul, dans le chapitre 3, a parlé de son exemple, et il a parlé de l'espérance en Jésus-Christ, en laquelle ils doivent tenir fermement attachés. Mais il me semblait important de garder ça à l'esprit. Paul vient de dire aux frères de l'Église, restez attachés au Seigneur. Continuez à tenir ferme en communion avec le Seigneur. Attachez-vous à lui, que votre vie soit ancrée en lui. Quelle puissante nécessité. Et les versets qui suivent sont l'occasion pour Paul d'affermir les frères en Christ. Et les premiers versets de notre passage ce matin, Paul ne va pas hésiter tout d'abord à mettre le doigt sur un désaccord. Il semblerait que Évodie et Saint-Tiche aient un différend. Nous ne savons pas de quelle nature, mais ces deux chrétiennes de l'église de Philippe qui avaient collaboré très activement avec Paul, peut-être lors de l'évangélisation de cette ville, ont à présent un différend entre elles. Et il est suffisamment grave, ou peut-être public, pour que Paul le soulève et intervienne au travers de cette lettre. Paul souhaite que ce différend disparaisse. Il n'est pas bon qu'il y ait un tel différend entre elles et dans l'Église. Et il prend même le soin de demander à un fidèle collègue de les aider. Ces paroles, d'ailleurs, que nous dit Paul ici, peuvent être une aide pour nous dans l'Église dans la manière d'appréhender les conflits éventuels qu'ils peuvent avoir. Paul recommande en tout cas Évodie et Saint-Tiche à ce disciple. Il pense peut-être qu'il pourra contribuer à rétablir, comme il le dit lui-même, un même sentiment, une même pensée dans le Seigneur. Et dans les versets suivants, Paul donne plusieurs exhortations. Il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, ne vous inquiétez de rien, que tout ce qui est honorable, etc., etc., soit l'objet de vos pensées. » Ces versets renferment des exhortations riches pour notre vie chrétienne. Alors, je ne sais pas si toutes ces exhortations sont la conséquence du différend qu'il vient de soulever entre ces deux sœurs. En tout cas, ces paroles peuvent faire à la fois écho et servir certainement d'une manière particulière pour ce différend, comme elles servent aussi à chacun dans l'église de Philippe et comme elles peuvent nous servir à nous aussi aujourd'hui dans notre vie chrétienne. D'ailleurs, l'apôtre Paul utilise l'impératif dans ces versets qui suggère une exhortation plus large que le simple conflit entre ces deux sœurs. Il semble s'adresser, en tout cas d'une manière générale, à l'église de Philippe. Et je voudrais m'attarder ce matin plus particulièrement sur les versets 6 à 9 de ce passage. Et je vois dans ces versets 6 à 9 deux parties. Une partie qui nous invite à faire connaître à Dieu. Et une autre partie qui nous invite à nous remplir de ce qui est de Dieu. Alors l'apôtre Paul donne une exhortation qu'il exprime ainsi au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Combien cette phrase résonne dans nos têtes. Ne vous inquiétez de rien. C'est facile à dire, hein. S'inquiéter, c'est merimnao en grec. Ça signifie bien sûr inquiétude, la traduction, mais c'est avoir soin, prendre à cœur quelque chose d'une telle manière qu'on en devient anxieux et qu'on devient préoccupé et ça devient des soucis. C'est ça l'inquiétude. L'inquiétude consiste à être préoccupé par des soucis, quelque chose qui devient l'objet de nos pensées en permanence. On se met en souci. C'est d'ailleurs la traduction de la semeur, c'est se mettre en souci. Et on est souvent facilement préoccupé par telle ou telle chose. Cela prend toutes nos pensées dans nos têtes. Pourtant, Paul semble nous dire aussi ici, ne garde pas cette inquiétude. Paul sait qu'on s'inquiète, mais il souhaite qu'on ne garde pas cette inquiétude pour nous-mêmes. D'ailleurs, ce qui suit nous montre que Paul nous invite à exposer à Dieu, à faire connaître à Dieu. En toute occasion, en toute chose, en toute situation, au lieu de garder cette inquiétude, au lieu de se mettre en souci, tourne-toi vers Dieu, fais connaître à Dieu, dépose tout devant Dieu. Nous avons un petit peu les mêmes pensées dans l'épître de Pierre, où Pierre dira aux frères de l'Église, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne les gardez pas sur vous, déchargez-vous sur lui. Dans le psaume 55, déjà dans l'Ancien Testament, nous lisons « Rejette ta charge sur l'Éternel. Garde-la pas pour toi. Décharge ta charge sur l'Éternel. » Faire connaître à Dieu, se tourner vers Dieu, se décharger sur lui. Faut-il encore le vouloir? Faut-il encore l'accepter? Est-ce qu'on accepte finalement aussi facilement de remettre toute chose entre les mains du Seigneur? Même les inquiétudes. L'exhortation de Pierre dans son épître nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Et ensuite il nous dit « Et déchargez-vous. » Souvent, pour considérer que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'abord de nous humilier, c'est-à-dire de reconnaître que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de porter telle et telle situation. Mais avant de nous tourner vers Dieu, il faut le reconnaître. Et donc, il y a une phase nécessaire, finalement, d'humiliation, c'est-à-dire de reconnaissance qu'on ne peut pas par soi-même. Non, on ne peut pas. Et à ce moment-là, nous sommes invités à ne pas résister, à céder devant le Seigneur et à accepter de lui remettre toute chose. Mais il faut bien reconnaître que ce soit notre orgueil, mais aussi parfois simplement le poids de nos soucis, nous empêche tout simplement de nous tourner vers le Seigneur. Nous résistons même, parce que nous pensons qu'il faut qu'on trouve la solution par nous-mêmes. Ce fardeau, c'est moi qui dois le porter, il faut absolument que je m'en sorte. C'est peut-être ça, finalement, se mettre en souci. Se mettre en souci, est-ce que finalement, c'est pas résister? C'est pas résister par soi-même, vouloir porter un fardeau sans se tourner vers Dieu. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, ici, tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers lui. Et il nous dit comment faire. Faites connaître à Dieu vos besoins en toute occasion, par des prières, avec des supplications qui sont des prières plus insistantes. La supplication, c'est la prière d'un frère qui se met à genoux, qui se répand devant le Seigneur avec insistance, dans une situation peut-être terrible. Et aussi avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec un cœur reconnaissant. Savoir reconnaître que Dieu nous assiste. Il y a vraiment ici, dans cette invitation à se tourner vers Dieu, un sens de s'attendre à Dieu en toute occasion. En toute occasion de notre vie, bonne ou mauvaise. Alors, il y a un passage court qui nous invite à considérer cette manière de faire. En 1 Samuel 30, au verset 6, il nous est dit que les femmes, les filles et les fils des enfants d'Israël avaient été emmenés captifs par les Amalécites qui avaient pris la ville de Dislag. Et nous lisons alors l'attitude de David face à cette tragédie. Qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit que David était dans une situation très angoissante. David était angoissé. Il était même terrifié. Et il était terrifié pourquoi? parce que ses compagnons, c'est-à-dire le peuple d'Israël à ce moment-là, qui était plein d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles qui avaient été emmenés captifs. Et il parlait de tuer David à coups de pierre. Vous pouvez imaginer la situation. David était dans une situation désespérée et le peuple voulait même le lapider. Qu'est-ce qu'a fait David ? David n'est pas resté avec son angoisse. Il n'est pas resté avec son inquiétude. Pourtant, David, c'est le roi. Il n'a pas accepté de trouver une solution par lui-même. Il nous est dit que David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. David se tourna vers Dieu, et c'est vers Dieu qu'il puisa de nouvelles forces. Nous avons dans ces paroles un peu le même sens exprimé par Paul ici dans ce passage, de se confier, de se tourner, de faire connaître à Dieu nos besoins. Alors bien évidemment, il ne faut pas réduire la prière simplement à cet unique besoin de se décharger sur Dieu, de lui faire connaître nos souffrances, bien évidemment. Je dirais, ce n'est pas simplement quand tout va mal qu'il faut s'adresser à Dieu. Mais il est bien ici question de, en toute occasion, en toute chose, par des prières, des supplications, avec des paroles de reconnaissance. D'ailleurs, ces paroles de reconnaissance, c'est souvent celles qui accompagnent nos prières. Vous savez, souvent on dit qu'il est plus difficile de remercier Dieu que de lui demander quelque chose. C'est vrai. Et pourquoi c'est aussi difficile parfois de remercier Dieu ? C'est parce que parfois on n'a pas conscience que Dieu a répondu à notre prière. Parfois il nous faut du temps pour considérer et reconnaître que Dieu agit dans nos vies. Des fois il faut un laps de temps pour dire « mais oui, c'est vrai, finalement le Seigneur il a agi dans ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. » Et donc vous voyez que la prière c'est pas simplement dans les moments de trouble que nous en avons besoin. Nous en avons besoin aussi tous les jours de notre vie et aussi pour reconnaître ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Ici, il y a vraiment un appel à marcher avec le Seigneur dans notre quotidien. Alors Paul nous dit ensuite quelque chose d'extrêmement important. Il nous dit, alors, si vous vous faites connaître vos besoins à Dieu, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera votre cœur et votre pensée. Est-ce que vous le croyez ce matin ? C'est pas évident à considérer. Nous avons encore là une même pensée dans l'épître de Pierre, quand Pierre dit « Déchargez-vous sur lui de vos soucis », il rajoute « Car lui-même prend soin de vous ». Et dans le psaume, lorsqu'il est dit « Rejette sur l'Éternel ta charge », il est dit aussi « Et il te soulagera ». Dieu prend soin de vous. Cette phrase est puissante et elle est nécessaire que nous l'entendions. Parce que parfois, lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, je ne sais pas si on a vraiment conscience que Dieu peut tout dans nos vies. Est-ce que nous savons que le Seigneur peut prendre soin de nous vraiment ? En tout cas, jamais nous avons vu des personnes dans notre vie, dans notre entourage, passer à côté des difficultés, des épreuves, des souffrances. Si ça existe, il n'y en a pas beaucoup. Que ce soit David, ici, dans cette situation qu'on a lue, les disciples de Jésus, Paul même, ou encore les frères de l'Église à qui s'adresse Pierre dans sa lettre, on se mentirait à soi-même ou on mentirait aux autres en disant le contraire. Personne n'a jamais dit qu'on passera à côté des épreuves, au contraire. Jésus lui-même n'a jamais caché sa souffrance, ni celle de ses disciples. Il leur a révélé leur souffrance à venir. Mais en tout cas, Jésus a fait une chose. Il a toujours fait une chose. Il leur a apporté le réconfort. Il ne leur a pas caché la souffrance à venir, mais il leur a apporté le réconfort nécessaire. Et nous n'avons pas dans la parole de Dieu, en tout cas, un enseignement de comment éviter la souffrance, mais comment nous en remettre à Dieu malgré la souffrance, afin qu'il nous assiste. Et la question est de savoir si l'on est prêt à accepter cette aide de Dieu, et donc à céder et à se placer sous son regard. On sait que Dieu peut nous aider, mais faut-il encore l'accepter ? Faut-il encore vouloir venir à lui ? En tout cas, Paul nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Et lorsqu'il écrit sa lettre aux Thessaloniciens, lorsqu'il parle de cet encouragement à prier et à remercier le Seigneur, il dit encore, « C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que vous fassiez connaître vos besoins à Dieu. C'est sa volonté. Il veut que vous puissiez lui exprimer vos besoins. Dieu veut prendre soin de vous. Et ici, finalement, quel plus bel objectif dans la prière, ou quel premier objectif que la paix de Dieu. Vous savez, lorsque Paul écrit cette lettre, on pourrait penser qu'il nous dit « Faites connaître à Dieu afin que Dieu réponde à votre prière et qu'il vous guérisse ou qu'il vous débarrasse de votre fardeau ou qu'il réponde à votre demande. » Mais ce n'est pas du tout ça qu'il dit ici. La première chose que nous avons besoin dans la prière, c'est de la paix de Dieu. Et des fois, on n'en a pas conscience de ça. On prie sans savoir que la première chose dont nous avons besoin dans notre cœur et dans nos pensées, c'est de la paix de Dieu. C'est une des premières choses primordiales que nous avons besoin. Et cette paix, si on la considère, elle fait contraste avec les inquiétudes. Si souvent nous sommes en inquiétude et en souci, c'est parce que nous manquons de cette paix. Et ces inquiétudes et ces soucis ont vocation souvent à nous éloigner de Dieu, ou en tout cas à mettre une barrière entre lui et nous. On est troublé et on manque de cette paix de Dieu. Eh bien, faire connaître à Jésus nos besoins a pour effet de recevoir d'abord cette paix afin qu'il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Parce que c'est une des premières choses que nous avons besoin. Tous les soucis de nos quotidiens sont ce danger de nous éloigner de Dieu. Et on a vraiment besoin de la paix de Dieu pour nous garder, je dirais, au contact avec lui, en communion avec lui. La paix de Dieu, c'est cette puissance qui vient protéger notre homme intérieur et qui est appelée à régner en nous. D'ailleurs, quand Paul va en parler aux Colossiens, il va dire de recevoir la paix et que cette paix vienne régner dans les cœurs. Pas simplement qu'elle habite, qu'elle règne dans le cœur. C'est-à-dire que la paix de Dieu fasse autorité dans nos cœurs, qu'elle soit implantée en nous. Nous avons un besoin vital que la paix de Dieu habite en nous. Alors Paul fait bien de dire « Faites connaître à Dieu ». Alors après cette exhortation à finalement nous répandre devant Dieu, à appeler à Dieu, l'apôtre Paul va donner une autre exhortation en ces termes. Au verset 8, il dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au reste, frère, ou dans certaines traductions, il est dit « enfin ». Pour terminer, voilà une exhortation à considérer de manière précise. Il conclut ce qu'il vient de dire par une autre exhortation tout aussi importante. Si Paul a exhorté les frères à faire connaître, c'est-à-dire à se tourner vers Dieu, maintenant, il invite les frères à aspirer à ce qui est de Dieu. Alors les traductions, si vous les lisez entre la semeur, la seconde, parole de vie, français courant, on a un petit peu ça. Nourrissez vos pensées de ce qui est de Dieu. Portez votre attention de ce qui est de Dieu. Que tout ce qui est de Dieu soit l'objet de vos pensées. Ou voici ce qui doit vous intéresser. Toutes ces traductions nous font pointer vers la même chose. Aspirez à ce qui est bon, juste, parfait et honorable. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aime cette double exhortation. Cette exhortation de savoir faire connaître à Dieu nos besoins afin que cette paix nous remplisse. Et cette autre exhortation qui nous invite à nous remplir, c'est-à-dire à ce que tout ce qui est bon, juste et honorable soit l'objet de nos pensées. Je ne sais pas si cet ordre est voulu par Paul ici dans ce passage, mais en tout cas moi ça me parle, ça m'interpelle. Ça m'interpelle que d'un côté, j'ai besoin de faire connaître à Dieu certaines choses pour m'en débarrasser, ou pour en tout cas qu'il m'éclaire, ou lui soumettre des choses, et que d'un autre côté, j'ai besoin aussi que mes pensées soient remplies d'autres choses. Se tourner vers Dieu, c'est nécessairement, à un moment donné, ouvrir une porte au travail de Dieu dans son cœur. Lorsqu'on se tourne vers Dieu et qu'on prie, on ouvre une porte au Seigneur. On lui ouvre une porte pour qu'il vienne travailler dans notre vie, dans notre âme et dans notre pensée. À ce moment-là, dans cette attitude, nous sommes plus à même à porter notre attention à ce qui est de Dieu. Et bien évidemment, c'est là aussi, dans cette marche avec le Seigneur, que tout ce qui est bon, juste et honorable aux yeux de Dieu peut devenir l'objet de nos pensées. Il y a ici ce contraste entre, vous l'avez vu au départ, les inquiétudes qui peuvent être des fois et parfois l'objet de toutes nos pensées, et de l'autre côté, cette invitation à ce que, après cela, l'objet de nos pensées ne soit plus les inquiétudes, mais tout ce qui est bon, juste et parfait. Et là, on peut voir toute l'importance de se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, ce n'est pas simplement recevoir sa paix, ce n'est pas simplement être débarrassé de certaines choses, ce n'est pas simplement avoir une réponse à nos prières, mais il y a aussi un aspect spirituel. Un aspect spirituel important. Nous débarrasser de certaines choses qui ne sont pas de Dieu peut-être, ou qui sont un fardeau pour nous tout simplement, et nous laisser remplir de ce dont nous avons besoin pour grandir avec lui. Alors qu'est-ce qui doit être l'objet de nos pensées ici dans ce passage ? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, je le répète, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Et moi j'aime cette traduction de la seconde 1910 qui le dit dans ces termes, tout ce, tout, 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 tout. Il y a un sens littéral, là, une manière d'écrire qui est belle, c'est une espèce de poésie répétitive. Et elle rend le contenu d'autant plus fort, parce qu'en répétant de cette manière, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que si je répète tout ce qui est dit, je me rends compte que ces choses ne sont pas si facilement en moi. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. J'ai beau regarder en moi-même, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que j'ai beaucoup. En tout cas, j'en manque beaucoup si j'en ai. Et j'ai besoin, comme le dit Paul, d'y porter toute mon attention. Justement parce que c'est peut-être des choses que nous avons besoin vraiment dans nos vies, parce que nous en manquons. La deuxième chose ici, c'est que ces caractéristiques, si je les mets ensemble, elles me révèlent qu'elles sont de la nature divine. Ces vertus que Paul expose ici me font penser à ce que renferme la sagesse, et pas la n'importe laquelle, la sagesse qui vient d'en haut, celle de Dieu. Cette sagesse dont Jacques parle en ces termes, avec des termes à peu près identiques. Dans son épître, au chapitre 3, verset 17, Jacques dit « La sagesse d'en haut, celle de Dieu, elle est premièrement pure, comme dans ce passage, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » La sagesse d'en haut produit ce fruit qui doit nous remplir. Ce fruit qui est appelé à remplir nos vies et qui est aussi appelé à être semé dans nos vies. Ici, Paul encourage les frères à ce que tout cela soit l'objet de ses pensées. Alors la prière ce matin, c'est que tout cela soit aussi l'objet de nos pensées. Et je crois qu'il y a du travail à faire. En tout cas pour moi, je peux vous dire que quand j'ai lu ces mots, je me suis dit, est-ce que l'objet de mes pensées... Est-ce que je nourris mes pensées ? Est-ce que je porte mes pensées vers ça ? Ce n'est pas si évident que ça. Et plus encore, Paul, il n'invite pas simplement les frères de l'Église à rechercher ça, mais il les invite à le mettre en pratique. Et il dit au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Pratiquez-le. L'apôtre Paul est l'exemple même de la mise en pratique de ces vertus que nous venons de lire. Et il leur dit, mettez-les en pratique. Ces choses, les Philippiens les avaient entendues, ils les avaient reçues, ils les avaient apprises de Paul. Et ils avaient pu le voir aussi dans la conduite de Paul et au travers de son ministère auprès d'eux. Et ils sont aujourd'hui encouragés à en être remplis, afin de pouvoir maintenant faire aussi la même chose. Mais il faut effectivement que ces vertus soient dans nos pensées pour ensuite pouvoir les mettre en pratique. Donc vous comprenez bien toute l'importance d'en être rempli à notre tour. Nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes d'être justes. Nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes d'être honorables sans l'aide et l'assistance de Dieu. Nous avons besoin d'être nourris par son Esprit Saint. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas porter du bon fruit. Parce que le bon fruit vient de l'Esprit de Dieu. Alors ces pensées seules ne serviraient pas à grand-chose si elles ne produisaient pas ce fruit de justice, ce fruit nécessaire, cette semence qui a vocation à être plantée et à être semée. Vous savez, lorsque Paul écrit sa lettre à Tite, un de ses collaborateurs, il va s'attacher à rappeler l'espérance qu'ils ont en Jésus-Christ, comme le fait souvent Paul d'ailleurs. Il va rappeler toute l'espérance en Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il a souffert, qu'il a ressuscité, et qu'ils ont cru en lui, et qu'il siège à la droite du trône de Dieu. Et Paul va dire à Tite, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses qu'il vient de dire sur l'espérance en Jésus-Christ. » Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, « Je veux que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Ce n'est pas simplement croire en Dieu, mais c'est aussi mettre en œuvre ce que Jésus a accompli dans nos vies. Et il rajoute, Paul, « Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Il y a quelque chose de vertueux, quelque chose de puissant dans ce que Dieu nous a donné, dans ce que Dieu nous invite à recevoir. C'est de pouvoir le mettre en pratique pour faire en sorte que ce soit aussi au bénéfice de ceux qui ne croient pas. Je crois vraiment que se laisser remplir de ce qui est de Dieu n'a pas vocation à être stérile, mais au contraire à porter du bon fruit pour la gloire de Dieu. Alors pour terminer cette deuxième exhortation, vous l'avez peut-être vu, Paul dit au verset 9, « Le Dieu de paix sera avec vous ». Il utilise ici la même construction qu'il a utilisée dans la première exhortation, quand il dit « Faites connaître à Dieu vos besoins », etc. Et il dit « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées ». Là, il dit « Que tout l'objet de vos pensées soit ce qui est bon, juste et honorable et parfait ». Et il dit « Et le Dieu de paix sera avec vous ». Il y a ici le même but ultime qui doit nous pousser à nous attacher au Seigneur, à nous tourner vers lui. C'est l'expression de la présence de Dieu dans nos vies. Faire connaître à Dieu et la paix de Dieu sera avec nous. Mettre en pratique ce que Dieu a fait dans nos vies et le Dieu de paix sera avec nous. Il sera en nous et il sera avec nous. Et je crois que nous avons tous, comme l'Église de Philippe, besoin de recevoir cela, d'avoir cette paix et d'avoir ce Dieu de paix avec nous. Alors je voudrais ce matin terminer simplement ce passage, ce court passage, en vous témoignant de ma prière ce matin. Ma prière pour vous et pour chacun d'entre vous, pour moi-même. Ma prière, c'est que nous sachions faire connaître à Dieu nos besoins tous les jours de notre vie. Que nous puissions en toute occasion et en toute chose nous tourner vers lui. C'est que nous sachions reconnaître que Dieu agit dans nos vies et qu'il veut nous donner sa paix. Ma prière ce matin pour vous et pour moi, c'est que l'objet de nos pensées soit ce qui est bon, juste et parfait aux yeux de Dieu. C'est un beau challenge. Mais que nous puissions demander que par son Esprit il nous assiste, afin que cela devienne une réalité dans notre vie. Et donc, ma prière ce matin aussi, c'est que la gloire de Christ resplendisse du milieu de nous, et que nous restions toujours un peu plus fermement attachés à lui, en communion avec lui. Merci.